l'invité de la rédaction. Valérie Vial.
Il s'appelait Louise Doll, Victor Colmer, Pierre Bockel ou encore Émile Moulineau. Ils étaient policiers, médecins, fonctionnaires, agriculteurs. Ils ont agi seuls, en couple ou en famille, en sauvant, en cachant, en œuvrant pour la survie des Juifs traqués par les nazis. L'exposition des Lumières dans la nuit, les Justes parmi les nations d'Alsace, est une exposition documentée qui met en lumière ces 78 Justes, des personnes nées en Alsace ou résidant en Alsace juste avant la guerre, dont deux ont payé de leur vie leur acte de résistance. Écoutons le commissaire de l'exposition, Edith Desrousseaux, sur le travail de préparation de cette exposition, visible jusqu'au 5 octobre 2021 au Palais universitaire de Strasbourg, avant d'être présentée dans des établissements scolaires ou des structures institutionnelles.
Oui, l'exposition s'appelle aujourd'hui « Des lumières dans la nuit » puisqu'elle présente 78 Justes parmi les nations venues d'Alsace que nous avons retrouvées, identifiées parmi les personnes qui ont été nommées, reconnues, Justes parmi les nations en France ou même ailleurs. Alors le premier travail a été d'identifier des personnes qui étaient nées en Alsace, donc c'est tout un travail de recherche d'état civil, à la fois parmi les plus de 4000 noms de Justes parmi les nations françaises et puis même également dans d'autres pays limitrophes. Et ce travail s'est ajouté à un autre travail qui a été d'identifier les Justes parmi les nations qui étaient présents en Alsace parce qu'ils y habitaient, parce qu'ils y avaient leurs habitudes, leur profession, leur métier, juste avant guerre. Et à partir de là, on a pu réunir ces 78 noms. Parmi ces 78 noms, il y a également une Belge et une Allemande. Et ça nous a donné vraiment une image de ce qu'a pu être l'action de soutien et de sauvetage en direction des Juifs qui étaient opprimés, persécutés en France, comme d'ailleurs dans le reste de l'Europe. Et donc c'est vraiment un moment important de voir tous ces exemples qui nous sont donnés, montrés à travers toutes ces histoires, souvent discrètes, sans beaucoup de mots, mais qui sont vraiment des phares, des grands coups de projecteur à travers une histoire sombre. Oui, nous avons travaillé en amont de l'exposition, en partenariat constant avec le comité français pour Yad Vashem, qui nous a ouvert ces dossiers, qui nous a permis de découvrir toutes ces personnes. Mais bien souvent, pour les documenter plus encore, il a fallu l'aide de ces familles. Et toutes ces familles qui ont vu leur aïeul agir dans la plus grande discrétion et souvent partir de ce monde dans la plus grande discrétion, elles sont aujourd'hui tout à fait conscientes que l'exemple qui a été donné doit être connu et doit être transmis. Donc c'est la raison de leur présence massive ce soir au moment de l'inauguration de l'exposition. Alors pour avoir beaucoup travaillé en histoire contemporaine, je peux vraiment connaître et savoir combien cette dimension dramatique de l'histoire qui nous est proche est présente. Et travailler sur cette exposition aujourd'hui a été vraiment un bonheur parce que c'est la preuve que dans toutes les époques, que dans toutes les circonstances les plus sombres, des hommes savent encore trouver le bien et le faire. Et ça, c'est une magnifique leçon d'espoir pour nous aujourd'hui.
Le FSJ, le Fonds social juif unifié, est à l'origine de ce projet, comme nous l'explique Laurent Gradvol, le délégué régional Grand Est.
La genèse un petit peu de ce projet. En 2019, nous avons eu la chance d'être partenaire d'une exposition autour d'Adélaïde Oval, qui était la première femme alsacienne juste parmi les nations. Exposition organisée par l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine, en partenariat donc avec le Fonds social. Et on était dit que voilà, on a effectivement rendu hommage à Adélaïde Oval, mais au cœur de nos villes et villages alsaciens, il devait y avoir d'autres justes, d'autres personnes qui, au péril de leur vie, on va dire, ont sauvé des Juifs. Donc à ce moment-là, on a réuni un comité scientifique, que je vais vous présenter, avec un comité de pilotage, et on s'est dit, bon, ben, on va se lancer dans cette aventure très folle, et qui a permis de réaliser donc, ce travail juste merveilleux et inédit. Hein. Ça n'a jamais été fait autour des justes venus d'Alsace.
Une soirée inaugurale riche en émotions, grâce entre autres à la présence des descendants des Justes ou des sauvés venus du monde entier, comme Michel Timèche, le fils d'Alfred Timèche, mort en déportation lorsque son fils avait 4 ans. Il a aujourd'hui 77 ans.
Je suis le fils d'un des Justes mort en déportation pour avoir sauvé des Juifs. Alors... Moi, j'étais content qu'on cite son nom, hein, parce que cette exposition mémorielle, je l'attendais depuis un moment. Ils ont bien respecté mes envois. Et en fait, c'était surtout, bien sûr, pour la mémoire de mon père, parce qu'il est mort à Mauthausen. Et si vous voulez, on a beaucoup parlé aussi de mémoire, mais sa mémoire, à lui, bon, il n'est jamais revenu. Ouais. Donc, c'est quelques cendres dispersées en Autriche. Cette exposition, finalement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que c'est la seule façon, pour moi, il n'a pas de tombe, de penser à mon père, que je n'ai presque pas connu. J'avais 4 ans quand il est parti, quand il a été arrêté sur dénonciation, donc quand il a été arrêté par la police allemande. À part un document d'écrou, parce qu'avant de partir à Mauthausen, il a été arrêté, donc il était à Grenoble, au siège de la Gestapo, puis à Lyon, où siégeait Klaus Barbie, le fameux boucher de Lyon. Et ensuite, il a été, comme des milliers d'autres, il a été transféré à Compiègne. Et de là, il est parti pour Mauthausen. Et alors, ironie du sort, c'était le dernier train à destination de ce camp, hein, donc en 44.
Frédérique Naud-Dufour, historienne, ancienne directrice du Centre des Résistants, déportée de Natzwiller-Struthof, revient sur cette période et notamment sur la symbolique du palais universitaire qui accueille aujourd'hui l'exposition.
Je rappelle que dans 2 mois, le 23 novembre 2021, ce sera le 80e anniversaire de l'inauguration de la Reichsuniversität de Strasbourg, ici même. Et moi, dans ma tête, je revois cette photo de la Aula avec tous les drapeaux nazis, avec ici la tribune, la Aula même où nous nous trouvons, avec toutes les dignitaires nazis, avec tous les professeurs dans leur uniforme, parfois membres de la SS d'ailleurs, et l'un d'eux tout particulièrement, je le vois, qui s'appelle August Hirt, qui était le directeur de l'Institut d'anatomie de la Reichsuniversität, celui-là même qui fera gazer 86 juifs au Struthof au nom de la science pour faire cette collection de squelettes d'une race disparue. Donc là, on est dans un endroit qui a un sens extrêmement particulier. C'est que aujourd'hui, grâce au rétablissement de l'université française après la guerre, grâce au travail qui est effectué, y compris au sein de cette université, sur cette mémoire très douloureuse de la faculté de médecine de la Reichsuniversität, puisqu'il y a une commission qui, dans un mois, rendra les résultats de plus de 2 ans de travail sur tout ce qui reste dans les collections de cette faculté de médecine. Grâce à cette exposition qui montre un autre aspect de l'engagement des Alsaciens pendant la guerre, je crois qu'on rétablit cette université et puis cette Alsace dans son héritage, qui est à mes yeux l'héritage de l'humanisme, cet humanisme rhénan qui vient de la Renaissance, qui vient des Lumières, et que par les temps qui courent, on voit se déverser tellement de sottises, le mot est faible, sur la Seconde Guerre mondiale et de réhabilitation posthume et d'amalgame, et c'est vraiment important de revenir avec justesse et de manière scientifique sur les faits.
Le député barinois Sylvain Wasserman, vice-président de l'Assemblée nationale, revient sur l'histoire de sa famille, imbriquée avec la famille Fricker, qui sauvera son père de la déportation dans son discours inaugural.
J'ai découvert incidemment que dans votre exposition, parmi ces Alsaciennes et ces Alsaciens que vous mettez à l'honneur, il y a une femme, Madame Marie Fricker, et son mari, Georges Fricker. Marie et Georges sont venus recueillir le jour de la rafle du Veldiv, à Paris, le 16 juillet 1942, Sarah, 7 ans, et Joseph, 5 ans, que 2 policiers français venaient rechercher. Ces 2 policiers se sont disputés pour savoir s'il fallait répondre aux suppliques de la maman qui voulait laisser partir les enfants avec Marie Fricker, ou appliquer les ordres. Je vous rappelle, stipulait 2 choses. D'abord, de parler le moins possible, pour éviter de créer un lien d'humanité avec les personnes, et d'autre part, d'emmener les enfants avec les parents, par acte d'humanité, disait-on. Au final, ils ont laissé partir Joseph et Sarah avec Marie Fricker, qui les a recueillis et protégés durant toute la guerre. Joseph, ce petit garçon de 5 ans, deviendrait un jour mon père. Et aujourd'hui, je suis là devant vous, avec Jean-Philippe Fricker, qui est venu ici d'Avignon, et le petit-fils de Marie et de Georges.
Et de nous accorder une interview où il revient sur les circonstances du sauvetage de son père et de sa tante.
Oui, c'est ça, Georges et Marie Fricker, le jour de la rafle du Veldiv, ont recueilli, grâce à la dispute de deux policiers français qui hésitaient à laisser partir les enfants ou à les emmener vers les camps d'où on ne revenait pas. Et Georges et Marie ont recueilli la petite Sarah, 7 ans, le petit Joseph, 5 ans, qui deviendrait un jour mon père. Et les deux familles, aussi longtemps que je me souvienne en tant qu'enfant, les deux familles ont toujours fait une seule famille. Je me rappelle en tant qu'enfant n'avoir jamais fait la différence entre la famille juive et la famille catholique. Je m'étonnais même qu'un coup on fêtait les mariages à la synagogue, l'autre coup à l'église. Et cette force, elle se manifeste encore aujourd'hui, où le petit-fils de Georges et Marie est là aujourd'hui à mes côtés. On l'a accueilli hier à la maison. Et évidemment, ces liens traversent les générations. Et je crois que c'est un magnifique message d'espoir que nous apportent les Justes, et les Justes d'Alsace en particulier.
À quel moment cette famille a été reconnue juste ? Comment ça s'est passé ?
Ah, mais vous savez... La famille Fricker ne reconnaissait pas une quelconque notion de médaille ou de reconnaissance. Ils considéraient, je l'ai dit dans mon intervention, ils considéraient que le fait de recueillir deux enfants était un acte tout à fait ordinaire et tout à fait naturel, qui était juste l'expression de leurs valeurs les plus profondes. Et je sais ce que je dois à cette famille, bien sûr, mais aussi à cet esprit alsacien qui est fait de valeurs profondes, qui est fait d'humilité, de beaucoup de sincérité, de beaucoup de modestie, mais surtout de ces valeurs profondément humaines. Donc lorsque Georges et Marie ont été reconnus justes parmi les nations, ils étaient presque étonnés, mal à l'aise, en se disant « mais pourquoi nous honorer ? On a fait que ce qu'il fallait faire ».
C'est vous qui les avez proposés ?
C'est ma tante, la petite Sarah de 7 ans, qui est une grande militante de la mémoire, aux côtés de Serge et Beate Klarsfeld. Et elle ne pouvait malheureusement pas venir aujourd'hui, son état de santé ne lui permet pas. Mais je l'ai appelée juste avant pour lui dire que je pensais bien à elle. Et évidemment, je l'appellerai tout à l'heure pour lui essayer de lui passer l'émotion qu'on a pu vivre ici. La salle dans l'université était remplie avec des centaines de personnes, avec beaucoup de descendants des familles justes qui venaient des quatre coins de la France. Et c'était véritablement un moment magnifique.
Christelle Monroe-Weingarten, petite fille d'un juste, revient sur les faits et cette transmission familiale.
Alors ma grand-mère a fui l'Alsace, est allée en zone libre. Elle s'est retrouvée à Marseille, où elle a connu mon grand-père, que nous n'avons jamais connu, hélas, parce qu'ils faisaient partie tous les deux d'un réseau de résistance, le réseau André. Et pendant la guerre, ils ont aidé à sauver beaucoup de Juifs, à faire des faux papiers, à évacuer des enfants au Chambon-sur-Lignon, notamment. Et ils se sont fait attraper, elle, lui, son beau-frère et sa sœur. Et ils ont été emprisonnés à la prison des Présentines à Marseille. Et hélas, seuls deux d'entre eux ont survécu, dont ma grand-mère. Et elle a perdu son futur époux, et alors qu'elle était enceinte de mon papa. Donc voilà. Plusieurs fois, j'essayais de parler de cette époque. Et il y avait un blackout total, en fait. Enfin, total, non, mais elle nous disait, elle avait interviewé, on lisait des choses, etc. à ce sujet, mais... Mais quand on voulait savoir, même quand j'étais plus âgée, à l'âge de ma fille, là, quand j'étais adolescente et que je me questionnais, elle me disait tout le temps, tu sais, alors que ça faisait quand même un moment que c'était derrière elle, elle me dit, tu sais, il y a des choses, vraiment des atrocités dans la vie et on ne peut pas les raconter. Donc le trauma était tellement fort, je pense même des années plus tard. Et donc il y a encore beaucoup de choses, et surtout sur l'histoire de mon grand-père, du coup, que je cherche à découvrir, ou que je cherche encore à relier, qu'elle n'a pas raconté, que mon père ne sait pas non plus. Donc plus sur les passages traumatiques. Donc ça, c'est plus difficile à porter. Mais après, effectivement, on est fiers, évidemment, on est fiers d'elle, mais ça a été très justement résumé dans les mots dans l'introduction, enfin, de l'inauguration, là. C'était vraiment des personnes simples et qui n'avaient pas forcément envie d'être à l'honneur. Et elle disait tout le temps mais ce que j'ai fait, ça n'a rien d'extraordinaire. Et on ne se rendait pas compte du danger qu'on prenait. On faisait ce qu'il y avait à faire et c'est tout, en fait. Et pendant toute sa vie, alors qu'elle était protestante, elle a travaillé pour les œuvres juives jusqu'à sa retraite. Donc on a un peu baigné quand même dans une double culture. Voilà, entre le protestantisme alsacien, elle est née à Bus, dans un petit village du Bas-Rhin. Et elle a effectivement travaillé à Strasbourg, rencontré, je pense, mon grand-père à Strasbourg. Et après, ils ont fui tous les deux.
Didier Cerf pour le comité français de Yad Vashem, l'Institut international pour la mémoire de la Shoah.
Concrètement, c'est en général la famille des gens qui ont été sauvés parce qu'il faut un témoignage, si possible, direct de deux personnes. Mais parfois, c'est également la famille des sauveteurs, et c'est aujourd'hui les enfants ou les petits-enfants, qui ont appris ce qui s'était passé pendant la guerre et qui font les demandes. Et les demandes sont des demandes administratives, un petit peu complexes, comme dans tous les pays. Mais les dossiers aboutissent malgré tout assez rapidement. Il y a surtout des difficultés à trouver deux témoins parce que la loi juive, et puisque la Yad Vashem décerne la médaille des justes et la médaille civile la plus importante en Israël, ce qui est difficile, c'est surtout de trouver des témoins directs encore vivant, parce qu'il est nécessaire d'avoir deux témoins directs, selon la loi juive.
Jacques Henneta, petit-fils d'Henri Frehly.
Il est parti sur Cluses, en Savoie, et de là, il a fait partie d'un réseau qui permettait à certains juifs de passer en Suisse. Et donc, il en a fait passer. Alors, le nombre exact, on ne sait pas vraiment, mais il en a fait passer plusieurs. Et voilà, quoi. Ils se sont retrouvés en Suisse. Du coup, il y avait une grand-mère qui était un peu très âgée et qui avait du mal à passer. Donc, il l'a gardée avec lui. Enfin, ils l'ont gardée avec lui. Ils ont enlevé les enfants. Les enfants à eux ont donné leurs jambes pour remettre ces personnes juives. Et comme la dame avait beaucoup de bijoux à l'époque, il a gardé les bijoux et à la fin de la guerre, il les a rendus à cette famille. Il en parlait, oui, assez facilement, ouais. Ouais. Donc, mais moi, comme j'étais sur Paris, c'était plutôt mes cousines à qui il en parlait plus, quoi.
Il a eu la reconnaissance de son vivant. Comment est-ce qu'il l'a accueilli ?
Il était très, très content et très fier. Il avait de quoi être fier, d'ailleurs. Et donc, et toute sa famille aussi, avec ses enfants, ses quatre enfants et sa femme, ils étaient fiers pour ça, quoi. C'est bien. Il l'a eu en 75, sa médaille des justes. Et il a été reconnu en 75 et il est décédé en 81. Il les a retrouvés après la guerre. Il les a retrouvés et ils ont eu du contact pratiquement jusqu'à la fin, en 81.
Marie-France et Christian Ernst, fils de Camille Ernst, secrétaire général de la préfecture de la Meuse, puis de l'Hérault. Il est résistant, il crée un foyer pour juifs étrangers menacés et alerte des rafles à venir. Il est engagé dans les filières d'évasion vers l'Espagne, cache des enfants et fournit des faux papiers.
On avait déjà l'occasion d'avoir une reconnaissance familiale. Aujourd'hui, on reconnaît un groupe de personnes issues de notre région d'origine. et ça n'est justice. Il a été juste en 71, c'est ça, oui. Alors, très discrètement, comme toute sa vie, il y est allé tout seul avec ma maman. Et puis, on l'a su presque par hasard, parce qu'on avait notre vie par ailleurs. Il n'en parlait pas, pas du tout. Pas du tout. Et il a eu, en tant qu'élu, il a eu pas mal de distinctions. Et il nous a toujours dit que la seule qui comptait pour lui, c'était la médaille des Justes. Et alors, oui, il a fait des faux papiers pour des Juifs. Il était à Montpellier à l'époque. Donc il a fait, et puis il a été arrêté à Marseille, enfin, et déporté. Il a eu la chance d'en revenir.
Il a été libéré par les Américains, en fait, à l'ouverture des camps.
Donc, pour nous, c'est très émouvant.
Ils sont 78 justes pour les nations d'Alsace, dont les actions sont détaillées dans cette exposition. À l'initiative du FSJU, l'exposition est visible tous les jours, sauf le week-end de 9h à 20h, au Palais universitaire de Strasbourg.
L'invité de la rédaction.